Bienvenue au Polysécure épisode sur les humains. C'est un épisode spécial puisque je le fais dans le cadre du podcaston sur lequel j'ai choisi une cause qui me tient à cœur, ce qui est la prévention du suicide. J'ai sollicité la QPS pour ça, donc je suis accompagné de Hugo. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton association?
Oui, bonjour, moi c'est Hugo Fournier. Effectivement, je suis de la QPS, l'Association québécoise de prévention du suicide. Je suis le PDG et en même temps le porte-parole. Donc la QPS, ça fait quoi dans la prévention du suicide? La QPS, bien premièrement, on fête notre 40e anniversaire de fondation cette année. La QPS a une mission extrêmement claire et une vision claire. Puis notre vision, nous, elle peut être utopique, mais c'est d'avoir un jour un Québec sans suicide. Donc, c'est de bâtir un Québec sans suicide. Puis quand on bâtit quelque chose, bien, c'est brique par brique. On sait que ça ne se fera pas cette année, mais on va y arriver, ça, c'est certain. Et dans notre mission, bien, on a différents axes, entre autres, d'influencer les décideurs politiques à toujours faire en sorte que la prévention du suicide soit au top des priorités. On a aussi, dans notre mission, soutenir les citoyens ou les citoyennes qui veulent créer des initiatives pour prévenir le suicide. Donc, nous, dans notre équipe, on a des gens spécialisés en événementiel, justement pour accompagner des gens qui organisent des tournois de golf, tournois de hockey. Et souvent, ils font ça parce qu'ils ont été touchés de près ou de loin par le suicide. Et moi, je dis souvent, ça donne un sens au non-sens. Donc, ça fait partie de notre mission, puis également de créer des formations destinées aux intervenants, aux formateurs, toujours avec les meilleures pratiques en prévention du suicide qu'on peut avoir au Québec. Donc, c'est la QPS, entre autres.
Très intéressant, puis ça répond justement à mes préoccupations, puis à mon désir de ce partage-là. J'aimerais ça que tu commences par parler des mythes, parce que encore à ce jour, il y a beaucoup de mythes qui entourent le suicide et qui essentiellement nuisent à sa prévention parce qu'on n'agit pas peut-être pas correctement ou suffisamment en avance. Donc, je vais te laisser parler de ces mythes-là.
Oui. Ben effectivement, des mythes, il y en a beaucoup dans la société pour plein de sujets. Moi, j'ai commencé en prévention du suicide dans les années 90, puis à l'époque, quand j'étais un tout jeune intervenant, en situation de crise, ben, on était confronté à des mythes déjà. Il y a des mythes qui se maintiennent, mais il y en a d'autres aussi. Mais surtout en prévention du suicide, les mythes sont quand même maintenus, je trouve. Comme par exemple, je vais vous en donner un. Une personne qui pense au suicide, c'est une personne qui veut absolument mourir. Elle veut mourir. La réponse est faux. Une personne qui pense au suicide, elle ne veut pas mourir. Elle veut cesser de souffrir. Elle veut que sa souffrance puisse arrêter dans l'instant présent immédiatement. Parce que lorsqu'une personne en vient à penser au suicide, c'est que son espoir de s'en sortir est transformé en désespoir. Puis elle est toujours dans un sentiment d'ambivalence, dans le sens qu'il y a une partie d'elle qui souffre puis qui veut arrêter de souffrir, puis il y a une autre partie d'elle qui veut mourir. Et c'est pour ça que je disais souvent dans le temps, puis je le dis encore aujourd'hui, lorsqu'une personne, moi, m'appelait dans un centre de prévention du suicide ou appelle dans une ligne d'écoute, c'est à quelque part, c'est parce qu'elle veut de l'aide. Donc, il y a toujours cette ambivalence-là en elle. Un autre mythe qui est quand même tenace. Nous, on dit toujours en prévention du suicide, puis quand on fait de la formation puis de la sensibilisation dans la population, c'est que c'est important de demander à quelqu'un s'il pense au suicide. Si vous avez quelqu'un qui est proche de vous, puis on va en parler des signaux de détresse, comment est-ce qu'on peut identifier ou repérer quelqu'un. Si vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous inquiète, la première des choses, c'est de poser la question clairement. Penses-tu au suicide? Et un des mythes qui persiste, c'est que si on demande à quelqu'un « Penses-tu au suicide? » ben ça va l'encourager à passer à l'acte. Et c'est faux. En fait, lorsqu'on demande à quelqu'un puis on lui pose la question « Penses-tu au suicide? » ben non seulement ça n'arrivera pas qu'il passe à l'acte, mais ça va surtout probablement et fortement soulager la personne dans le sens qu'elle va se sentir moins seule, elle va absolument vous répondre, puis ça va engendrer une espèce de conversation sur ce qui l'a fait souffrir. Il y a beaucoup de tabous hein, puis de malaise autour du suicide, donc ça va enlever tout le tabou du silence et du mot suicide autour d'elle. Un autre mythe si je peux continuer encore. Il y en a beaucoup qui disent ou qui pensent que le suicide, c'est un geste de courage. Il faut être courageux pour se suicider ou c'est un geste de lâcheté. La réponse, c'est ni l'un ni l'autre. Une personne ne se suicide pas par choix, mais parce qu'elle a l'impression qu'elle n'a plus d'option devant elle. Donc, lorsque, comme je disais tantôt, le désespoir, l'espoir se transforme en désespoir, bien, même s'il y en a des options devant elle, des solutions, elle ne les voit plus. Et c'est pour ça qu'elle va passer à l'acte. Il y en a d'autres qui disent aussi, comme mythe, « Ah, c'est de la manipulation. Elle dit qu'elle veut se suicider ou il dit qu'il veut se suicider parce qu'il veut attirer l'attention. » La réponse est faux. Il faut toujours prendre les menaces de suicide au sérieux. Une menace de suicide ou un appel, une verbalisation de « je veux me suicider », c'est toujours des appels à l'aide. Il faut être vigilant devant tout propos suicidaire.
C'est très intéressant. Puis l'aspect, puis moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est comment en parler. Parce que parler du suicide, c'est compliqué. Puis ce mythe-là de penser, puis en même temps, on va effleurer parler dans les médias aussi, parce qu'il y a effectivement des choses qu'il ne faut pas faire. Mais parler directement, moi, ça m'a surpris qu'on doit littéralement dire, bout de l'autre, hey, penses-tu vraiment au suicide? Puis là, ça, j'aurais jamais pensé que cet élément-là de direction, d'être aussi direct, était nécessaire. Mais peux-tu approfondir un peu sur cet axe-là?
Oui, puis lorsqu'une personne vous inquiète dans votre entourage, que ce soit dans votre famille, votre chum, votre blonde, votre collègue, puis si on parle un peu des signes précurseurs, mais si quelqu'un vous dit qu'il n'en peut plus de continuer comme ça, qu'il n'est plus capable, bien, vous pouvez lui répondre, par exemple, quand tu me dis que tu n'en peux plus puis que tu ne veux plus continuer de même, qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut-tu dire que tu penses au suicide? Vous le lancez comme ça. Tu sais, l'important là-dedans, là, c'est pas de devenir un intervenant et embarquer dans une relation d'aide. L'idée là-dedans, là, c'est d'être capable de nommer ce qui vous inquiète et d'amener la personne à baisser les barrières du tabou puis s'ouvrir à vous. Comme, par exemple, quelqu'un avec qui vous travaillez, normalement, il est hyper extraverti, expressif, il parle à tout le monde. Puis là, depuis, quelques temps, il est introverti, il prend moins soin de lui, il mange moins bien. Il est vraiment devenu comme une huître. Vous pouvez y mettre la main sur l'épaule puis tout simplement dire, « Hey, mon chum, j'ai l'impression que ça ne va pas. M'inquiète un peu. Est-ce que ça va? Parle-moi de ce qui ne va pas. » Puis la personne va s'ouvrir, puis après ça, vous glissez. Tout ça, ça t'amène-tu à penser au suicide? L'idée là-dedans, c'est d'amorcer une conversation dans toute sa simplicité pour que la personne sache que vous êtes là. Un autre exemple. Malheureusement, on a des gens dans notre entourage qui peuvent vivre une rupture amoureuse. Puis on sait qu'une rupture amoureuse, bien, c'est quelque chose qui fait mal, puis qui peut avoir des traces. C'est un choc épouvantable pour une personne. Puis vous travaillez avec cette personne-là, puis elle a des signes inquiétants, elle ne parle plus, des fois elle ne vient pas travailler. Fait que vous pouvez lui dire pendant que vous dînez, ça ne doit pas être facile hein, depuis que ta blonde t'a laissé. Puis tu sais, ça se peut que tu aies de la misère à te concentrer, que tu n'aies pas le goût de rien. Pis avec tout ce que tu vis là, avec tout ça là, depuis que c'est arrivé, ça t'amène-tu à avoir des idées suicidaires? C'est tout simplement d'ouvrir avec respect, bienveillance la conversation. Puis, vous allez voir, là, la personne va premièrement se sentir moins seule. Vous lui tendez la main et elle va sentir qu'elle peut compter sur vous pour se confier. Puis, généralement, si elle a des idées suicidaires, elle va en parler aussi. Là.
C'est très intéressant parce que puis ça fait partie des mythes, mais un peu des statistiques qui existent pour de vrai. C'est les hommes qui sont beaucoup plus affectés par le suicide. Et incidemment, les hommes ont beaucoup plus de difficultés à communiquer. Puis là, je me place dans une situation en gars. Puis là, tu as ton chum, justement, un peu comme tu mentionnais. Puis là, il faut que tu lui tapes sur l'épaule. « Hey, dude, ça a l'air de pas bien aller. » Mais c'est pas nécessairement confortable aussi. Puis surtout d'aborder un sujet aussi tabou que ça encore, malheureusement, dans notre société. De parler de ses émotions avec un autre gars, ça non plus. En tout cas, les plus jeunes générations sont mieux formées ou sont mieux ouvert à ça, mais ma génération, ça commençait un peu, puis c'était pas too much, puis mes parents, c'est juste zéro. Fait que comment on est capable de peut-être casser un peu cette forme d'isolement émotif que les hommes, ou maintenant les plus vieux hommes, mais quand même, peuvent vivre, puis justement les amener à sortir de cette espèce de malaise de communication de ce qui peut paraître comme étant de l'émotion.
Ouais, oui, c'est un bon point. Puis souvent, les hommes, dans les tabous et les tabous, puis les, tu sais, un peu là, la façon dont l'éducation a été donnée, parler, dire que ça ne va pas, c'est un signe de faiblesse à tort. C'est un stéréotype puissant qu'un homme doit être fort. Hein? Puis moi, je suis un peu dans tes tranches d'âge. Là, moi, quand j'étais jeune, si, mettons, je pleurais ou j'avais une peine d'amour, ben t'es plus fort que ça. Hey, t'es fait fort, là, arrête de niaiser. T'sais, c'est là qu'on réduisait à néant la légitimité que ça se peut qu'à un moment donné, ça ne va pas dans la vie. Tu sais, ce qu'il faut retenir, là, c'est que c'est courageux et mauditement fort de demander de l'aide. C'est un signe de force incommensurable. Puis tu sais, quand vous avez un de vos chums, mettons, parce que là, on parle de gars, un de vos chums qui semble ne pas bien aller, là, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il vous fasse une longue avalée oratoire sur qu'est-ce qui le fait souffrir, mais ça ne va pas. Puis juste dans sa posture, ben, dans ce temps-là, là, c'est important de savoir c'est quoi les signaux de détresse. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est deux choses. Connaître les signaux de détresse, connaître les ressources, puis la tape dans le dos, c'est-à-dire la main sur l'épaule, viens, on va aller prendre un café ensemble, puis d'y dire, gars, appelle-la, texte-la, va sur ce site-là, puis de l'accompagner, puis dire, gars, fais ça pour moi, je te demande un service. Je te lâche pas tant que tu le fais pas, tant que tu n'appelles pas. Puis tu sais, dans les signaux de détresse, là, ça, là, que ça soit un homme qui est hyper stéréotypé, une femme, un jeune, il y a souvent des signaux de détresse qui vont être transgénérationnels. Comme par exemple, la tristesse, le découragement. Ça peut être un signal qui allume une lumière jaune, dire « Oh, ça va pas ». Des paroles, des signaux verbaux comme « La vie, c'est juste de la merde, ça en vaut plus la peine ». Ou ben non, « Vous seriez donc bien mieux sans moi ». J'en peux plus. Maudit que je partirai en voyage puis je reviendrai pas. Des fois, là, c'est peut-être pas signe que la personne pense au suicide, mais des fois, là, ça se peut qu'elle y pense aussi. Donc, dans le doute, là, vous ne vous abstenez pas. Vous allez vous enquérir de comment ça va, comme je vous disais tantôt. Mettez la main sur l'épaule, puis vous posez la question dans une petite conversation. Ça t'amène-tu à penser au suicide, ce que tu vois là? L'isolement. Hein, quelqu'un qui est hyper sociable puis qui tout d'un coup s'isole de plus en plus. Puis vous savez, l'isolement vient aussi du fait qu'une personne peut ressentir de la honte à penser au suicide parce que pour lui, ça n'a pas de sens. Mais comme je vous disais précédemment, lorsqu'une personne est rendue à penser au suicide, c'est qu'elle ne voit plus les solutions devant elle. Puis l'espoir qu'elle avait au tout début est transformé en désespoir. La personne se néglige, l'apparence négligée. Toujours pris soin d'elle, l'hygiène, tout ça, puis la personne est carrément négligée, ça peut être un signe. L'absence de motivation, autant de se prendre en main de ses activités quotidiennes, de venir travailler, de se nourrir convenablement, changement des habitudes de vie, l'intérêt soudain pour la mort, beaucoup de colère, d'impulsivité quand la personne, c'est pas quelque chose qu'elle manifestait. Il y en a aussi qui vont donner des choses qui leur sont précieuses. Régler les conflits. Régler les conflits le plus rapidement possible. Parler de ce qu'elle peut léguer ou faire des dons d'objets. Ce sont des petits signes de détresse aussi qu'il faut toujours se dire, OK, je pense que ça vaut la peine d'aller mettre la main sur l'épaule de mon collègue puis dire, ça vaut-tu? Il y a aussi une espèce de signe précurseur dont il faut se méfier. Lorsqu'une personne vit un mauvais moment, vit beaucoup de souffrance, puis que du jour au lendemain, elle se met à bien aller. Elle est comme apaisée. Tout va bien. Elle reprend goût à la vie, puis là, vous vous dites, enfin, tu as assez parlé, puis ça va bien. Et ça, il faut se méfier, parce que on a souvent appelé ça la rémission spontanée, mais ça peut cacher le fait qu'une personne a pris sa décision, puis pour elle, c'est ce qui va mettre fin à ses souffrances, le suicide. Et ça, il faut s'en méfier, parce que pour moi, c'est comme un risque élevé qu'elle peut passer à l'acte. Donc, je reviens toujours avec l'idée de ne vous abstenez pas de rien faire. Mettez la main sur l'épaule. On va-tu prendre un café ou ça va pas? J'ai l'impression que ça va pas du tout, là. Pense-toi au suicide.
C'est intéressant. Puis comme on en a parlé un peu en préparation, tu as mentionné l'isolement. Il y a l'isolement d'une personne qui, naturellement, n'était pas isolée et s'isole volontairement dans ce contexte-là. Fait qu'on est capable de le détecter. Une personne qui est plus isolée ou qui, par le confinement, se retrouvait un peu plus isolée parce que maintenant, tu es en télétravail exclusivement, elle a peu de contact humain. Comment on est capable d'aller rechercher cette personne-là qui a de moins en moins de contact avec les autres parce que la société a changé? Mm-hmm. Comment on est capable d'aller l'aider? Parce que ces personnes-là, même si elles s'isolent, elles ont quand même des contacts avec des collègues ou avec des amis, en tout cas, du moins, j'espère encore un peu, qui c'est un isolement perçu, mais pas un isolement réel, mais qui est physiquement isolé parce qu'elle vit chez elle en constance.
Oui. Puis juste une petite parenthèse aussi, les signaux de détresse que je mentionnais tantôt, c'est important de vous dire aussi que c'est pas parce que quelqu'un vit ces signaux-là qu'automatiquement 100% va penser au suicide. Mais c'est le contraire est aussi vrai. Donc, c'est important quand même d'être vigilant puis d'aller poser la question. Face à votre question, bien écoute, moi j'ai le goût de faire le parallèle avec notre porte-parole à la QPS qui est Jonathan Roberge. Puis notre thématique de notre dernière semaine de prévention du suicide qui était « Tendre la main, soutenir l'espoir ». Tendre la main à quelqu'un, c'est un peu ça aussi, d'aller dans son isolement, d'essayer de briser son isolement. Jonathan, lui, puis la personne se renfrogne aussi hein, dans sa souffrance et c'est là que ça se met à aller vite dans les pensées de désespoir. Ben écoute, il y a des gens qui ne l'ont pas lâché, tu sais, qui sont allés le voir puis qui ont tendu la main. Puis qui ont dit, regarde, on part pas d'ici tant que t'appelles pas. Fait que, tu sais, si moi j'ai un collègue qui est chez eux, puis ça fait deux jours qu'il colle malade, je le texte, il me répond pas, mais je sais qu'il est chez eux, puis là, Mani, il dit, laisse-moi donc tranquille, nanana. Ben écoute, on va aller cogner, puis hey, mon chum, je suis venu prendre un café avec toi. Puis là, ce que je vous disais au début, c'est que là, vous initiez une conversation, tu m'inquiètes, je suis inquiet pour toi, ça me préoccupe beaucoup. Tu sembles pas bien aller, puis ça se peut que tu n'ailles pas bien parce que c'est normal à un moment donné de souffrir, sauf qu'il y a des options devant toi, il y a des solutions, laisse-moi t'aider, puis peux-tu, s'il te plaît, garde, 1-866 appelle, tu peux-tu prendre ton sel, fais le 5-3, puis je te laisse tranquille après, mais fais-le devant moi, ou aller sur suicide.ca. Puis, tu sais, n'ayez pas peur de dire, ça en vaut la peine. Parce qu'il y a quelqu'un l'autre bord. Ce n'est pas une intelligence artificielle. Là. C'est un humain qui est dûment formé en prévention du suicide. Puis ça en vaut la peine parce que toi, tu en vaut la peine. Parce que les tempêtes ne sont pas éternelles. Puis tu sais, quand tu es dedans, là, quand ta blonde, ton chum t'a laissé, là, puis tu vis un moment de souffrance, tu as tellement l'impression, là, parce que j'ai eu des peines d'amour aussi, tu as tellement l'impression que tu es tout seul sur ton voilier puis que ça va durer une éternité. Mais à un moment donné, quand tu as du recul puis tu passes au travers, ben tu développes plus d'outils pour faire face aux prochaines tempêtes. Mais tu sais qu'elle n'est pas éternelle, la tempête. Fait que quand tu arrives pour aider ton chum ou ton collègue, ben tu l'as expérimenté, mais lui, là, il ne te croit pas. Là, parce que lui, il se dit non, quand même tu me dis ça, là, comme diraient nos jeunes, là, ça n'a pas rapport. Moi, là, je ne m'en sortirai pas. Mais insister dans le sens que, gars, on fait un deal ensemble. L'intervenant.
Oui, puis c'est intéressant, surtout les mots que tu utilises, parce que tu demeures dans la simplicité de la conversation, puis c'est un peu, je pense que ce qui fait peur aussi aux gens, c'est, tu parlais de relation d'aide, d'embarquer dans une relation d'aide dans laquelle on n'a pas nécessairement les moyens ou les outils pour le faire. Puis moi, le premier, j'ai pas nécessairement les outils pour entrer dans une relation d'aide de cette façon-là, voilà. Puis j'ai peur de m'embarquer dans une relation d'aide avec une personne qui va pas bien. Donc, je vais avoir cette retenue-là, mais en sachant qu'on peut juste avoir une petite conversation avec des mots simples, juste de façon puis claire et très directe aussi, ce qui était un peu très masculin, un peu bourru, comme ça, justement de le pousser à poser son geste et ensuite se diriger vers quelqu'un qui est formé et outillé pour aider justement à passer à travers la tempête en question. Je trouve ça super intéressant parce que pour moi, il n'y a pas un naturel d'amorcer cette conversation qui est très simple et qui devient moins awkward, qui est moins malaisante de juste aller avec des petits mots simples, un peu comme tes exemples. Je trouve super intéressant et super pertinent d'exposer ça comme ça.
Oui, puis j'ai le goût aussi de dire à ceux qui vont t'écouter, vous là, qui allez mettre la main sur l'épaule de votre collègue, de votre chum, ben vous, il faut prendre soin de vous aussi là-dedans. Puis tu l'as très bien dit, c'est pas une job d'intervenant que vous devez faire. C'est pas ça qui est votre rôle. c'est de donner l'opportunité à quelqu'un qui ne voit plus d'opportunité de faire un premier pas, puis de texter, clavarder ou appeler. Et là, ça va tout changer. La personne va être prise en charge, la personne elle va être suivie, puis on va prendre le temps avec elle. Quand je dis « on », c'est les intervenants du Québec là, qui sont en prévention du suicide. Mais vous, là, si vous vous sentez démuni, si vous vous sentez impuissant, si votre première tentative d'aller voir votre chum, votre collègue, votre ami, ça n'a pas porté fruit, puis vous ne savez plus quoi faire, bien, vous aussi, vous avez accès à un 866 appel. Vous avez accès au 53-53-53 où vous pouvez aller sur suicide.ca, clavarder avec un intervenant, parce que ces ressources-là, c'est pour aussi les gens qui ne savent plus quoi dire puis quoi faire, puis vous allez être coaché pour justement faire le premier pas, puis de faire en sorte que la personne accepte d'appeler à l'aide. Donc, c'est important aussi de bien identifier vos limites parce que c'est important que vous soyez sécure là-dedans aussi également, je dirais.
C'est très important, puis c'est effectivement les personnes qui sont dans l'entourage de la personne qui présente des signes de justement ces ressources sont très utiles. Jusqu'à présent, on a énormément parlé, on a comme présupposé que c'est les hommes d'une certaine génération, qui est essentiellement un peu la nôtre, puis les plus vieux qui sont très touchés par ça. Il y a deux catégories qu'on n'a pas abordées jusqu'à présent, puis je pense que c'est important d'en parler parce qu'il y a des problèmes qui sont en émergence. Les filles et les enfants, les adolescents, enfants qui sont là. Parce que puis tu m'as d'ailleurs éveillé tout le volet plus jeunesse justement parce que maintenant ils commencent à avoir des services pour ça, mm-hmm. Puis ça commence à devenir intéressant. Mais j'aime ça que tu abordes ces deux de façon séparée, ces deux grands volets-là qui sont en train malheureusement de changer dans notre société.
Ben oui, puis j'ai le goût dans un premier temps de vous parler des dernières données qu'on a nous à la QPS sur suicide.ca. Suicide.ca, c'est un mandat qui nous a été donné il y a 5 ans par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour développer une plateforme d'intervention en situation de crise, prévention de suicide numérique. Donc, sur ce site-là, vous pouvez clavarder avec un intervenant ou vous pouvez aller sur 53-53-53, texter avec un intervenant. Juste pour vous dire, en 2025, on a 30 000 interventions qui ont été faites en clavardage texto. C'est une augmentation de 28 % par rapport à 2024. Donc, bon an, mal an. Entre 2022-2023, en 2022-2023, on a eu 29 % de croissance. Donc, c'est à peu près 28-35 % d'augmentation de demande d'aide sur le numérique. Et là, ce qui était intéressant, c'est les données suivantes. Puis tu as raison, on parle beaucoup des hommes de par les stéréotypes, mais 70 % des interventions qu'on fait sur suicide.ca, clavardage texto, ce sont des femmes. Et 67 % des interventions, c'est des 18-40 ans. Donc, on voit que les femmes aussi ont besoin d'aide, demandent de l'aide. C'est important. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'interventions qui est fait sur clavardage texto pour les filles de 13 ans et moins. Comme par exemple, en 2025, 2000 interventions ont été faites auprès de filles de 13 ans et moins. C'est 80 % d'augmentation face à 2024. Puis les jeunes filles de 13 ans et moins représentent 6 % de toutes les interventions faites en 2025. Versus 4 % en 2024. Donc, ce qui nous préoccupe beaucoup dans les données, même s'il y a une baisse de 1 % dans le taux de suicide québécois, c'est que les adolescentes de 15 à 19 ans y affichent un taux d'hospitalisation pour tentative de suicide le plus élevé, alors que les filles de 10-14 ans, ce taux a triplé entre 2010-11 puis 2024. Donc, globalement, les taux de visite aux urgences pour des tentatives de suicide chez nos jeunes sont plus élevés. Donc, il y a une espèce de phénomène qui se passe chez ces jeunes filles-là et qui nous préoccupe beaucoup, 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 beaucoup. Puis on discutait en parallèle tantôt des impacts de la pandémie, etc., etc. Puis les données qui sont présentées, il y a beaucoup de recherches qui se fait sur les données pour comprendre vraiment les raisons, les causes profondes de ces données-là. Puis les recherches pointent sur différentes hypothèses. Puis je parle toujours des jeunes, là. Les effets de la pandémie aussi, hein, parce qu'il y a eu quand même des impacts sur les relations sociales. Le temps devant les écrans et les répercussions sur le sommeil, parce qu'on sait que plusieurs jeunes vont être sur TikTok, vont être sur Snap, vont être sur les réseaux sociaux jusqu'au moment du dodo. Mais finalement, pour des raisons qu'on connaît au niveau de l'électronique, ben, le sommeil est profondément altéré. Il y a les pressions sociales aussi, et notamment la pression de performance, donc l'anxiété de performance, où il faut réussir vraiment, là, puis on se compare aux autres. Il y a la pression au niveau des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça peut être aussi un facteur de protection parce que, bon, le jeune ou les jeunes ont accès facilement à leur réseau d'amitié, mais ça peut aussi être un facteur de souffrance parce qu'il y a beaucoup de... Il peut avoir de l'intimidation facilement propagée parce que, bon, tout le monde est accessible, bien évidemment. Il y a un facteur aussi qu'on ne parle pas beaucoup, mais qui est l'augmentation du nombre de jeunes qui sont touchés par un enjeu de conciliation travail-études. Ouais, beaucoup de jeunes qui travaillent un peu durant leurs études, mais quand le jeune est rendu qu'il fait 25-30 heures puis qu'il faut qu'il aille à l'école, ça amplifie l'anxiété de performance. Donc, on comprend de mieux en mieux les éléments qui peuvent générer des données, comme je viens de vous dire, et c'est en connaissant ces éléments-là qu'on peut mieux intervenir de façon chirurgicale sur des facteurs de risque potentiels.
Et là, comme tu as vraiment abordé l'enfance puis l'adolescence, comme parent, qu'est-ce qu'on peut faire pour déceler? Parce que les signaux chez les enfants ne sont pas tout à fait les mêmes que chez les adultes, parce que tu as parlé des signaux généraux, mais quand même, il y a des signaux qui sont peut-être plus spécifiques dans cette zone-là. Puis pour les parents qui écoutent puis qui sont inquiets que peut-être leurs enfants sont soit dans une mauvaise passe, qu'on pourrait dire standard, qui n'a pas de conséquences, mais il y a des fois des mauvaises passes qui ont des conséquences. Puis on l'a vu au Canada qu'il peut y avoir des conséquences, puis c'est sérieux. Comment un parent peut, se rassurer, puis justement être disponible ou offrir l'aide à son adolescent ou à son enfant qui présente, selon ses yeux, à lui comme parent, potentiellement un risque?
Oui, puis c'est une excellente question, parce que dans un premier temps, lorsqu'notre jeune vit de la détresse puis qu'on a des doutes sur « mon enfant, il pense au suicide », bien là, ça nous renvoie à nos propres signaux de stress parce que c'est inconcevable souvent ce qu'on va se dire. Moi, ce que j'ai le goût de dire aux parents, c'est d'être attentif aux signaux de détresse que j'ai énumérés tantôt. Puis lorsque notre jeune reste chez nous, on est en mesure d'être plus attentif. Des fois, on est tellement le nez collé qu'on ne le voit pas parce que on est dedans, comme on dit. On est dans l'émotion, comme on dit. Mais du moment qu'on sait c'est quoi les signaux de détresse, moi, je nous invite à toujours être un peu en mode vigilance. Puis de ne pas... tu sais, souvent, moi, comme papa, j'ai 4 ados, puis je me dis, OK, bon, j'ai une ouverture, j'ai une approche particulière, mais... je ne serai jamais l'intervenant de mes enfants. De un, je vais être la dernière personne à qui ils vont vouloir se confier. Et s'ils veulent se confier, bien, je vais accueillir. Mais il faut que le jeune sache qu'il n'est pas tout seul. Puis il faut que le jeune sache qu'il n'y a pas de malaise ni de honte à avoir des idées suicidaires ou du moins à avoir des moments de souffrance puis de désespoir. C'est important qu'il sache qu'il peut compter sur vous. Puis c'est important qu'ils sachent aussi que vous pouvez l'amener à avoir de l'aide. À l'école, il y a des personnes... Dans le fond, le jeune, c'est important d'avoir des personnes significatives, un réseau significatif autour de lui. Parents, sœurs, frères, amis, parce que la proximité du réseau social. À l'école, oui, il y a les profs, mais il y a aussi le personnel scolaire qui sont... tout le réseau du personnel scolaire qui sont des personnes significatives autour du jeune, les TES. Mais tu sais, c'est important de ne pas avoir peur d'ouvrir la conversation avec votre jeune, avec respect, puis avec douceur. Puis, tu sais, encore là, lorsqu'on pose la question, puis qu'on témoigne de l'empathie, puis de compréhension sur ce que la personne peut vivre, bien, généralement, vous ne vous ferez pas mettre dehors de sa chambre. À moins que vous disiez que c'est un bordel, puis vous voulez que ça se ramasse après 10 fois, là. Ça, moi, ça m'arrive. Mais généralement, là, la personne...
Faut pas avoir donné notre rôle de parent quand même, là, effectivement, mais il faut qu'il y ait un endroit, il faut que l'enfant se sente en sécurité de communiquer.
Exactement. Puis ça, c'est un excellent point que tu viens de mentionner, la sécurité psychologique. Tu sais, la pression de performance, c'est souvent aussi pour dire, ben écoute, papa, j'ai réussi mon examen. Tu coules un examen, ça va être plus difficile de dire « Maman, papa, j'ai coulé mon examen. » Donc, il y a toujours une espèce de désir inconscient de vouloir plaire et de réussir et d'avoir la reconnaissance de ses proches. Mais lorsqu'on souffre, c'est un peu plus difficile. Et moi, je crois beaucoup à cette approche-là. Puis, tu sais, nos jeunes, là, ils naissent, ils évoluent avec une boîte à outils, un coffre à outils qui n'est pas beaucoup garni, Et ça, c'est la beauté de notre rôle de parent, c'est de garnir leur coffre à outils parce que ces jeunes-là, là, ça va être nos futurs papa-maman et ça va être nos futurs petits-enfants parce qu'ils vont avoir des enfants. Donc, c'est comme ça qu'on peut avoir des nouvelles générations qui sont mieux outillées pour faire face à la détresse. Donc, normaliser la demande d'aide. Normaliser qu'à un moment donné, ça se peut que ça soit rough là, à l'école. Puis ça se peut là, que tu n'aies plus le goût d'aller à l'école. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas y aller. Mais ça se peut que dans ton sentiment du moment, tu n'aies plus le goût de rien. Ça, c'est de légitimer puis de le dire qu'on le comprend. Maintenant, il y a des ressources. Le jeune, là, est-ce qu'il va appeler au 1-866 appel puis il va avoir le goût de jaser ou il va être plus axé 5-3, 5-3, 5-3? On l'a vu tantôt dans les données, ça rejoint beaucoup les jeunes. Comme parent, on peut juste glisser un petit papier 5-3, 5-3, 5-3. Là. T'as quelqu'un qui il va comprendre ce que tu vis l'autre bord puis qui va t'aider. T'as juste ça à faire sur ton cellulaire. Fais-le, s'il te plaît. Tu peux-tu faire un deal avec moi? Fais-le. Suicide.ca, clavardage, même chose.
Oui, puis c'est intéressant. Puis même en préparation, tu m'avais parlé d'un service nouveau là, qui permet justement de déceler dans les chambres de jeu ou sur les consoles. On voit plus de garçons sur ça, mais maintenant, ça tend à s'équilibrer. Ouais. Justement, de déceler ce genre de choses. Comment ce service-là s'articule et comment justement il est capable de venir intercepter ces jeunes-là qui commencent à montrer des signes de détresse?
Oui, puis je m'adresse encore aux parents. Ça s'appelle les gardiens virtuels. Vous pouvez aller voir sur Internet. Les gardiens virtuels, ce sont des travailleurs... On a des travailleurs de rue aujourd'hui hein, qui vont voir les jeunes dans les maisons des jeunes, etc. Mais il y a des travailleurs du virtuel aussi qui sont spécialisés comme travailleurs de rue virtuels qui vont aller détecter la détresse chez les jeunes qui utilisent entre autres des jeux en ligne. Ben, quand je dis des jeux en ligne, là, PS5, Xbox, qui vont jouer à des jeux en réseau. Et ces travailleurs de rue-là vont être parmi eux, vont jouer, puis ils vont être capables. Parce que, tu sais, quand tu joues en ligne, là, moi, je joue pas, mais j'ai vu des jeunes, tu es capable de texter, tu es capable de chatter, bien, ils vont être capables de repérer des signaux de détresse par le comportement des joueurs et intervenir virtuellement là où on ne peut pas aller vraiment. Donc, on sait que le jeu, pour certains, va être une grosse partie de leur vie. Le jeu va être aussi un exécutoire, l'anxiété, la détresse et la souffrance. Mais, comme je dis tout le temps, il y a toujours des signes précurseurs qu'on ne voit pas bien. Là. C'est difficile d'être un robot. Et il y a des signes que ces gens-là, dans la détresse, vont laisser dans les chambres de jeu. Et les travailleurs de rue virtuels, des gardiens virtuels, vont être capables d'intercepter et de tendre la main.
C'est très intéressant, cette façon-là, maintenant, dans le fond moderne, parce qu'il faut quand même s'adapter à où on s'en va. J'ai fait un bon tour. J'aimerais ça juste qu'on aborde sur le dernier segment, comment on parle aux médias. Dans ce rôle-ci, je suis un média, c'est ce qui me fait très drôle de dire ça comme ça. Là. Je ne me serais jamais vu dans ce rôle-là de par ma profession, mais je joue avec le podcast un rôle de média. Et il y a des façons de communiquer correctement dans les médias de comment on peut parler du suicide et comment on ne devrait pas parler du suicide, justement, pour pas parce que là, on parlait de puis moi, ça m'avait surpris le mythe qu'on peut parler directement du suicide avec la personne. Est-ce que tu t'en vas vers là? Mais dans les médias, c'est une autre approche qui doit être prise justement pour ne pas inciter ou pour ne pas amplifier des problèmes qui pourraient avoir lieu.
Oui, puis tu as raison. Hein? Lorsqu'on a la responsabilité, le pouvoir d'un micro et d'un grand auditoire, on a la responsabilité aussi des effets qui viennent avec, mais je dois dire que merci beaucoup pour l'opportunité que tu nous donnes aujourd'hui, puis tu le fais très bien. Les médias sont un allié précieux. Ce qui est important dans le traitement du suicide, que ce soit dans les médias, dans les quotidiennes pour les auteurs, réalisateurs, c'est de le traiter avec une approche sécuritaire. Par exemple, il n'y a pas de valeur ajoutée de traiter le suicide en parlant des moyens, en détaillant sur les moyens. Parce qu'au contraire, ça peut être risqué qu'une personne qui vit, elle, de la souffrance puis qui ne peut plus tolérer cette souffrance-là voit le reportage, voit l'émission qui est axée sur les moyens et passe à l'acte. On ne veut pas ça. Les médias aujourd'hui traitent le suicide avec beaucoup de respect et de sécurité en mettant l'emphase sur les facteurs de protection, sur les ressources d'aide. C'est très commun de voir, mettons, une quotidienne hebdomadaire où ils vont traiter du suicide en présentant ce que je vous disais tantôt, les signaux de détresse, en présentant les signaux de souffrance, la façon dont, puis en romançant aussi, là, mais comment une personne essaye d'aider. Puis à la fin, ben, il y a toujours les lignes téléphoniques 186 appel et les ressources d'aide. Donc, les médias sont là pour promouvoir l'aide, parler du suicide avec les principes que j'ai dit tantôt. Et je vais vous donner un exemple. Dans le temps, là, 25-30 ans, lorsque je travaillais en prévention du suicide, moi, j'étais dans un CPS à Chicoutimi. Et la journée que Dédé Fortin s'est suicidé, j'étais, moi, au téléphone dans cet avant-midi-là, je pense, cet après-midi-là, et on a été débordés. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup le moyen qui avait été mentionné. Idem pour Gaétan Giroir. Ça, c'est un exemple probant, là, que lorsque le moyen est largement publicisé et diffusé, ben, il peut avoir un effet d'entraînement de suicide avec le même moyen. Lorsque Gaétan Giroir s'est enlevé la vie à Sainte-Foy, le moyen avait été assez détaillé dans les journaux, la couverture médiatique, et il y avait eu une augmentation significative de suicides justement dans ce coin-là, à Québec, avec le même moyen utilisé.
Oui, ben c'est ça. C'est inquiétant que ça a cet effet d'entraînement-là, et c'est justement important de bien communiquer, comme tu mentionnes. Parce
vraiment
que...
des facteurs de protection, comme je disais tantôt. Donc, et dans la compréhension de ce qu'est le suicide. Et chose que les médias font de façon admirable.
Oui, ben les choses ont changé et bien heureusement l'éducation. Ouais. Puis c'est un peu l'effort que je fais, c'est de réussir à enlever le tabou d'une situation qui est compliquée. Puis tu l'as très bien mentionné dans les mythes, parce que c'est dans l'absolu, puis c'est comme ça que je l'ai vu. Puis dans ce qui m'a été mis en contact, c'est vraiment la souffrance. Et du moment qu'on comprend que c'est juste la souffrance et le fait de ne plus avoir d'espoir, donc la perte de l'espoir, de réussir à aider la personne et à parler de sa souffrance plus que de dire que il y a des façons humaines de faire disparaître la souffrance qui ne sont pas ces moyens-là qui sont très, très malheureux. Là.
Absolument. Donc, et c'est via des podcasts comme le tien qui rejoint plein de monde et qu'on va arriver à multiplier ces actions-là et que ça va avoir un impact. Puis on le voit déjà, une baisse de 1%, c'est la multiplication des initiatives et des façons dont on traite le suicide pour aller enlever beaucoup les mythes puis amener les gens à dire « OK, c'est correct de demander de l'aide, là. J'ai les ressources, là. Je vais le faire, je vais appeler, ça vaut la peine. »
Merci pour ce partage-là. J'ai trouvé ça très, très éclairant. Ça m'a donné des outils supplémentaires parce que j'en avais certains, mais je ne les avais pas tous. Fait que je suis encore plus outillé. Puis j'espère que ça va rayonner et aider les gens à avoir plus d'outils. Prendre poser les bons gestes puis aider des personnes qui sont en souffrance dans leur entourage puis les aider à cheminer et à sortir de cet état de souffrance-là de façon heureuse et pour tout le monde.
Ben, c'est moi qui te remercie. C'est un privilège de pouvoir m'adresser à tes auditeurs. Je l'apprécie beaucoup.
We're gonna